Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues.
Qui n'a pas entendu parler de Booker T and the MGS ? Ce nom de groupe est parmi les plus connus des années 60. En général, on connaît leurs deux tubes planétaires. Mais on oublie souvent leur rôle d'accompagnement des artistes de Stax Records, le fameux label de Memphis qui avait sous contrat Otis Redding, Albert King, Wilson Pickett, Sam and Dave ou encore Isaac Hayes et tant d'autres. Tous furent accompagnés par Booker T and the MGS, soit sur disque, soit sur scène. Et en effet, Booker T and the MGS était un groupe américain de rhythm and blues, de funk, instrumental, qui a influencé la formation du son de ce qu'on a appelé la soul sudiste et notamment la soul de Memphis. Les membres originaux du groupe étaient Booker T. Jones, qui jouait de l'orgue et du piano, Steve Cropper à la guitare, Lewis Stenberg à la basse et Al Jackson Jr. à la batterie. En 1965, Lewis Stenberg a été remplacé par Donald Duck Dunn, qui a joué avec le groupe jusqu'à sa mort en 2012. En parallèle de leur travail de session, ils ont sorti des disques instrumentaux sur leur propre nom, dont le single à succès de 1962, Green Onions. Et en tant que créateur du son unique façon Stax, le groupe était l'un des plus prolifiques, respectés et imités de son époque. Au milieu des 60s, des groupes des deux côtés de l'Atlantique essayaient de sonner comme Booker T and the MGS. Le groupe a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1992 et a reçu quantité d'honneurs et de récompenses depuis les années 60. Autre particularité très étonnante en ce début des années 60, le groupe est formé de deux musiciens blancs, Steve Cropper et Donald Dunn, et deux membres noirs, Booker T. Jones et Al Jackson Jr. Un signe fort à l'époque car ce fut l'un des premiers groupes de rock racialement intégrés, à une époque où la musique soul et la scène musicale de Memphis, en particulier, étaient généralement considérées comme l'apanage de la culture noire. Et aujourd'hui, je vais vous parler de leur musique instrumentale, parue entre 1962 et 1970. Comme souvent, la formation de Booker T and the MGS fut le fruit du hasard. Un jour d'été 1962, le claviériste, âgé de 17 ans, Booker T. Jones, et le guitariste, lui âgé de 20 ans, Steve Cropper, avec le bassiste Lewis Stenberg et le batteur Al Jackson Jr., tous deux plus chevronnés, devaient enregistrer un disque d'une ancienne star, Billy Lee Riley. Pendant les temps morts, les quatre musiciens commençaient à jouer sur la base d'un riff de blues joué à l'orgue. Jim Stewart, qui se trouvait dans la cabine de contrôle et était le président de Stax Records, a aimé ce qu'il a entendu et il l'a aussitôt enregistré. Et Jim Stewart voulait sortir le single avec comme premier morceau en face A, Behave Yourself, que vous venez d'écouter en extrait comme jingle, et en face B, un deuxième morceau. La plupart des disc-jockeys radiophoniques pensaient autrement, car ils ne passaient en réalité que la face B. Et toute la journée, ils étaient assaillis de coups de téléphone à la station, demandant si le disque était déjà sorti. Devant cette réaction, Stax Records changea la formule, et la face B, Green Onions, devint la face A, et Behave Yourself devint la face B. Le single a atteint la première place du Billboard Rhythm and Blues américain, et la troisième place du palmarès de la pop. Et il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Il a été certifié disque d'or. On ne compte plus ses utilisations publicitaires ou cinématographiques. Et cette même année 1962, le groupe va sortir un album entièrement instrumental, intitulé Green Onions, et il se composait surtout de reprises instrumentales de succès populaires. Je pense à I've Got a Woman ou Lonely Avenue, deux titres du répertoire de Ray Charles. Mais aucun des titres n'a rivalisé avec Green Onions, que voici. C'était Green Onions par Booker T and the MGS sur OxyWeb Radio. Booker T and the MGS a ainsi continué à publier des singles instrumentaux et des albums tout au long des années 60. Le groupe était un combo d'enregistrements à part entière et la plupart de son travail au cours de cette période se résuma aux sessions d'enregistrement au profit de Stax Records. Pour donner une idée très sommaire de cette somme de contribution au profit des artistes Stax Records, je citerai All On I'm Coming avec Booker T qui joue du tuba et Soul Man du duo Sam and Dave, I've Been Loving You Too Long et Try A Little Tenderness avec Otis Redding, pour n'en citer que deux, et qu'ils accompagnaient aussi sur scène. Ils ont joué sur des centaines de disques, dont la plupart des classiques de la Southern Soul à Memphis. Soul Racing est leur deuxième album. Il est sorti en 1965. C'était leur dernier album avec le bassiste Lewis Steinberg, qui était plus âgé que ses camarades, et qui sera remplacé par Donald Duck Dunn. La chanson-titre, Soul Racing, de l'album, a culminé à la 95e place du Billboard Hot 100. Le Guardian a qualifié l'album de classique, écrivant qu'il faisait partie d'une série d'albums qui enchantaient les jeunes et représentaient toujours la quintessence de la soul subtile. Leurs morceaux furent souvent repris par les jeunes musiciens britanniques, fans de Booker T et de MGS, je pense notamment aux Small Faces ou au Spencer Davis Group. Toutes les chansons écrites par Steve Cropper, Al Jackson Jr., Booker T. Jones et Lewis Steinberg, à moins des indications contraires. Et voici une de leurs créations, Tic-Tac-Toe, avec son faux final à 30 secondes de la fin du morceau. C'était Tic Tac Toe par Booker T and the MGS sur OxyWeb Radio. En novembre 1966 sort leur troisième album studio, And Now. C'est donc le premier album du groupe avec le bassiste Donald Doug Dunn sur chaque piste. Pour cet album, seul My Sweet Potato a été publié en single avec en face B Boogaloo. Parmi les titres importants, je citerai In the Midnight Hour, une chanson que Wilson Pickett a interprétée en 1965. La chanson a été composée par lui-même, Wilson Pickett, avec Steve Cropper, dans le fameux Lorraine Motel à Memphis, où, quelque temps plus tard, en avril 1968, fut assassiné le docteur Martin Luther King Jr. Pour Wilson Pickett, cette première composition sur Atlantic Records a atteint la première place des charts Rhythm and Blues et la 21e place dans les charts de la pop. Au passage, Steve Cropper, le guitariste de Booker T and the MGS, se révèle comme compositeur. Mais je vous propose d'écouter Jericho, que l'on connaît sous différents noms, notamment Joshua Fit the Battle of Jericho. C'est un spiritual afro-américain bien connu. Les paroles font allusion à l'histoire biblique de la bataille de Jericho, dans laquelle Josué, ou Joshua comme on veut, mena les Israélites contre le peuple de Canaan. Mais comme dans de nombreux autres spirituals, les paroles prêtent à confusion et peuvent éventuellement faire allusion à une éventuelle évasion de l'esclavage quand on entend des phrases du genre « et les murs se sont effondrés ». La chanson aurait été composée par des esclaves dans la première moitié du XIXe siècle et elle fut adaptée aux États-Unis dans quantité de styles. Le gospel avec Mahalia Jackson en 1958, le rock avec Elvis Presley en 1960 et plus récemment par Hugh Glory, le fameux Dr. House, en 2011. Et il reste une quantité d'autres versions en musique symphonique, en jazz ou musical. Voici donc Jericho. C'était Jericho par Booker T and the MGS sur OxyWeb Radio. Je pas sur leur quatrième album, sorti en novembre 1966, et qui contient des versions instrumentales de chants traditionnels de Noël. Et j'en viens à Hip Hug Her, qui est leur cinquième album studio, sorti sur Stax Records en juin 67. La chanson-titre fut le single le plus réussi du groupe depuis leur début avec Green Onions, tandis que les reprises de la chanson des Young Rascals, Groovin', fut également un succès rhythm and blues et pop. L'album était leur dernier à être produit par le cofondateur de Stax, Jim Steward, parce que le groupe a commencé à se produire lui-même, et notamment en commençant sur l'album suivant, Doing Our Thing. Dans le même esprit, Booker T and the MGS a composé ses propres morceaux et dès lors réduit les reprises de succès. C'est aussi après avoir contribué à cet album que Lewis Steinberg a quitté le groupe et que Tug Dunn, comme on l'appelle, qui avait joué sur les sessions précédentes chez Stax Records, est devenu le bassiste à plein temps du groupe. Après une période de déclin commercial, Booker T and the MGS sont finalement redevenus dans le top 40 avec l'instrumental Hip Hug Her de 1967 que je vous propose d'écouter. C'était le premier single sur lequel Booker T. Jones a joué sur un Orgamond B3, l'instrument avec lequel il est désormais le plus étroitement associé dans l'esprit de tout le monde. Il a utilisé auparavant un Hammond M3 sur tous les enregistrements précédents, y compris Green Onions. Le groupe a également connu un succès substantiel avec donc Groovin' des Rascals, mais aussi le Get Ready des Temptations, que Rarer rendra célèbre, ou encore Sunny de Bobby Ebb, reprise par tant d'autres artistes. Mais voici Hip Hug Her. C'était Hip Hug Her par Booker T and the MGS sur OxyWeb Radio. En 1967, il y a eu un album live, Back to Back, qui est en fait réalisé en commun avec les Marquise et Booker T and the MGS. Il présente les deux groupes jouant lors de la tournée européenne Stax Vault. Sinon, après cette tournée, en juin 67, ils ont joué à Montreux et ça leur a permis de côtoyer des gens tout en soutenant Otis Redding, comme Jimi Hendrix, Janis Joplin, Léo ou encore Jefferson Airplane. Et donc leur notoriété s'amplifia. Ils ont failli passer à Woodstock 1969, le problème, c'est qu'Al Jackson, le batteur, ne voulait pas voler en hélicoptère pour rejoindre le lieu des concerts. Et donc on en vient à Doing Our Thing, qui est leur sixième album studio. Il est sorti en avril 68 et l'album a été leur premier disque autoproduit et entré dans les charts Billboard Top 200. Contient des reprises comme You Don't Love Me, une chanson de Rhythm and Blues, influencée au départ par le blues, créée par Willie Copps en 1960. En fait, il l'a adaptée à partir d'un titre de Bob Diddley qui lui était paru en 1955, mais c'est Willie Copps qui l'a rendu célèbre par son jeu de guitare et la mélodie qui a séduit plusieurs générations de musiciens, notamment l'Allman Brothers Band ou encore Al Kooper et Stephen Stills dans leur Super Session. Dans l'album, on trouve The Beat Goes On, rendu célèbre par Sonny Encher en 67. Je citerai aussi Ode to Billy Joe de Bobby Gentry, une auteure, compositrice, interprète venue du Mississippi. Et le titre fut connu en France avec Joe Dassin et Marie-Jeanne. Mais je vous parlerai prochainement de Bobby Gentry qui gagne à être connu. Enfin, on retrouve aussi Let's Go Get Stoned des Coasters, datant de 1965 et que Ray Charles ou Joe Cocker ont bien fait connaître. Mais je vous propose You Keep Me Hanging On du trio Holland-Dozier-Holland qui en firent une chanson des Suprêmes. We'll be right back. C'était You Keep Me Hanging On par Booker T and the MGS sur OxyWeb Radio. On en arrive à leur 7e album studio, Soul Limbo. L'album est le premier LP de Stax Records publié après que le label ait rompu ses liens avec l'ancien distributeur Atlantic Records en 1968. La chanson-titre, donc Soul Limbo, est peut-être mieux connue au Royaume-Uni car elle a servi de générique à l'émission consacrée au cricket sur la chaîne télé de la BBC. Parmi les titres intéressants repris dans cet album, on trouve Born Under a Bad Sign d'Albert King en 1967. Cette chanson est considérée comme un incontournable intemporel du blues et elle a également un fort attrait pour le public rock avec son son synchrone, ses lignes de basse et de guitare qui sont en fait la référence de Booker T and the MGS et également pour le sujet évoqué dans les paroles, à savoir l'astrologie. À l'époque, Steve Cropper cherchait à composer un titre pour Albert King et eut l'idée d'associer son jeu de guitare au thème astrologique évoqué dans les paroles. Et c'est sûrement ça qui explique le succès pour ce titre. L'album présente également la version à succès pour le groupe Booker T and the MGS avec le thème principal du film Hangman's Eye. C'est un thème musical composé au départ par Dominic Frontier pour la bande originale du film de 1968 du même nom, bien qu'il ait été repris pour la première fois par Hugo Montenegro, dont l'orchestre a enregistré un album complet de musique de film. Et c'est l'air qui est devenu un succès avec la version instrumentale de Rhythm Blues de Booker T and the MGS, qui atteint la 9e place des classements pop et la 35e de Rhythm Blues. c'était Hangzhen Hai, Pendele Haut, en France on dirait Haut et Court, par Booker T and the MGS sur OxyWeb Radio. L'album suivant contient la bande-son du film Uptight, réalisé dans le style Southern Soul, cher à Booker T and the MGS. L'album comprend le titre Time is Tight, le temps est serré, dont la version single est devenue un hit du top 10 américain, et en fait le deuxième succès le plus important pour la carrière du groupe. Et c'est devenu d'ailleurs une chanson de référence pour Booker T and the MGS. La version de Time is Tide, inclue sur l'album de la bande originale du film, est un enregistrement alternatif qui diffère de la version single à plusieurs égards. L'enregistrement est en stéréo, il est joué sur un tempo plus rapide et dure presque 2 minutes de plus. Il comprend à la fois une longue introduction et une décomposition instrumentale qui commence vers 3 minutes 30. Et dont aucun n'est dans la version unique. Johnny, I Love You, qui est sur la face B du single, permet d'entendre, pour façon assez rare, la voix de Booker T. Jones, le claviériste. Judy Clay chante également sur Children Don't Get Weary, ce qui représente quelque chose d'assez rare sur les disques de Booker T and the MGS. L'album a été enregistré dans les studios de Star Records par Ron Capon et puis produit par Booker T. Jones. Et en fait, il a été doublé et mixé à Arden Studio par Steve Cropper et Terry Manning. L'album s'est classé à la 98e place du chart des albums Billboard 200 et à la 7e place du palmarès des albums Rainbows, toujours du Billboard. Voici donc la version longue, celle qui figure sur l'album, du morceau Time is Tight. C'était Time is Tide par Booker T and the MGS sur OxyWeb Radio. Parmi les chansons de ce nouvel opus, The Booker T Set, on trouve Lady Madonna, le tube des Beatles. Pour ces derniers, cette chanson enregistrée avant leur départ pour leur fameux séjour en Inde, il s'agit d'un style inspiré du Old Man Blues, ce qui signalait en fait une approche plus conventionnelle dans l'écriture et l'enregistrement des chansons du groupe. C'est vrai qu'à l'époque, on sortait des expérimentations psychédéliques des deux dernières années, et notamment avec Sgt. Pepper. Ce single était la dernière sortie du groupe sur Parlophone au Royaume-Uni, car les suivantes seront publiées sur leur propre label, Apple Records, sous EMI Distribution, jusqu'à la fin des années 70, lorsque Capitol et Parlophone ont réédité du matériel ancien appartenant toujours au répertoire des Beatles. La première apparition de la chanson, donc Lady Madonna, se passa en stéréo et fit partie de la collection Hey Jude qui est parue en 1970. Mais je vous propose un autre monument de la pop avec Mrs. Robinson. C'est une chanson de Simon & Garfunkel tirée de leur quatrième album studio, Bookends, paru en 1968. C'est surtout une des chansons associées au film du réalisateur Mike Nichols, The Graduate, le lauréat en français, avec Dustin Hoffman et Anne Bancroft. Le réalisateur a refusé plusieurs chansons du duo avant de tomber sur cette chanson qu'il retint aussitôt. On pense souvent que les paroles parlent d'un amour entre un jeune homme et une femme mariée, alors qu'elles font référence à la star du baseball Joe DiMaggio. La chanson a été reprise par un certain nombre d'artistes, dont Frank Sinatra. La version de Booker T and the MGS insiste, grâce au son de l'orgue Hammond, magistralement entraîné par la basse de Donald Dunn, sur la merveilleuse mélodie de cette chanson. Et tant pis pour le chant. À noter le solo de guitare de Steve Cropper, un très grand guitariste. C'était Mrs. Robinson par Booker T and the MGS sur OxyWeb Radio. Les membres de Booker T and the MGS furent des fans de la musique des Beatles, et dans ce nouvel album, Macklemore Avenue, ils ont adapté la musique des Beatles au style de la soul soulsédiste, et plus exactement l'album Abbey Road. En 1969, Doug Dunn et Booker T. Jones, en particulier, étaient devenus des admirateurs des Beatles, et en particulier justement sur ce travail réalisé avec Abbey Road. L'appréciation était mutuelle car les Beatles avaient été musicalement influencés par les Booker T. MGS. John Lennon était un fan de Stax Records qui appelait affectueusement le groupe Booker Table and the Mattress. Il a même évoqué ce groupe dans une de ses chansons Beef Jerky. De son côté, Paul McCartney, comme Doug Dunn, jouait de la basse mélodiquement, sans s'éloigner du rythme ni du groove. En 1970, le vœu de John Lennon sera exaucé, en un sens, lorsque Booker T and the MGS ont enregistré cet album Macklemore Avenue, du nom de la rue où se trouvaient les studios de Stax Records, et sur laquelle ils ont interprété des reprises instrumentales de 13 des chansons d'Abbey Road, condensant 12 entre elles en 3 medleys. Même la pochette de l'album est une parodie de celle d'Abbey Road, et la quatrième de couverture reproduit même l'image floue d'une femme en mini-jupe au bord de la photo, et ce qui reflète finalement tout à fait l'esprit d'Abbey Road. J'ai choisi de vous passer Something, la chanson de George Harrison. Le morceau est généralement considéré comme une chanson d'amour pour Patti Boyd, la première femme de George Harrison, bien que celui-ci ait proposé d'autres sources d'inspiration dans des interviews ultérieures. Mais voilà la version de Booker T et MGS, avec une place importante laissée pour une fois à la guitare de Steve Cropper. Thank you. C'était Thumping par Booker T and the MGS sur OxyWeb Radio. On en arrive au 10e album présenté aujourd'hui et qui est paru en 1971 sous le nom de Melting Pot. Il fut enregistré pour Stax Records, même si c'est le virage vis-à-vis de l'avenir du groupe. En effet, en 1970, Booker T. Jones s'éloigne de Stax parce qu'il n'accepte pas la nouvelle ambiance imposée par le nouveau manager exécutif Al Bell, et même Steve Cropper s'éloigne également de Stax en créant son propre studio. Et le nouveau titre, Melting Pot, a été enregistré même à New York. En effet, Booker T. Jones refuse de revenir à Memphis pour enregistrer ce morceau et veut jouer dans un cadre différent pour obtenir un nouveau son de la part du groupe. Ça va être un grand succès pour Melting Pot qui va atteindre la 45e place du Billboard Hot 100 aux USA et la 21e place pour ce qui est des singles de toujours Rhythm and Blues et du Billboard. La critique dans le magazine Rolling Stone fut très positive, trouvant la musique fonctionnant très bien, avec une nouvelle souplesse et un retour à des modèles de jeu plus anciens, plus funky. Et c'est plus que suffisant pour en faire le meilleur album de Booker T depuis un certain temps, il faut l'avouer. Et le jeu de batterie d'Al Jackson est mis en évidence et est acclamé un peu partout. Voici donc Melting Pot. suis heureux d'avoir rendu hommage à ce groupe fabuleux, originaire de Memphis et meilleur représentant de cette soul subtile venue de là, sous le nom de Memphis Sound. Leur musique pouvait s'adapter à tous les milieux, sous toutes les latitudes. La semaine prochaine, je vous parlerai de Mike Bloomfield, mais d'ici là, ben roulez blues.